ta place dans ma classe? Oui, mais comment? Ce podcast se propose d'apporter des réponses concrètes à la mise en place de séquences d'art plastique en classe. Il s'adresse principalement aux professeurs du premier degré en formation ou déjà en exercice. Comment s'adapter à son public? Comment travailler avec les moyens matériels de son école et de sa classe? Comment aborder les grandes notions d'art plastique avec les élèves? Pour parler de cela, nous retrouvons Thomas et Caroline.
Bonjour Caroline.
Bonjour Thomas.
Épisode 1.
Allez, on se lance.
Caroline, pour débuter, j'ai déjà une question hyper basique. Dans mon école, j'ai pas de salle d'art plastique. Du coup, je fais les séances dans ma classe.
Alors, tout ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas grave. On peut s'adapter aux moyens qui sont les tiens. Et avant tout, il y a un maître mot. Tu t'organises comme tu veux et surtout, tu ne t'ajoutes pas tout seul des contraintes. Par exemple, rien ne t'oblige à faire la même pratique et la même technique à tous tes élèves en même temps.
Ok, alors comment faire?
Première chose, selon ton organisation de classe, tu peux travailler en îlot. Faire un îlot de dessin, un îlot de volume, un îlot peinture, et pourquoi pas un autre îlot où tu pourrais être en tutelle sur une autre discipline.
Ok, ça veut dire que je cherche une organisation spatiale et pédagogique qui est opérante et facile à mettre en place?
Effectivement. On conseille le travail en îlot, ou en tout cas en petits groupes. Même si les élèves travaillent individuellement, cette configuration leur permet d'échanger, de partager des découvertes et de discuter de leur production. Sur un plan plus théorique, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en didactique des arts plastiques, on considère que les contraintes matérielles et spatiales sont des moyens pour faire réfléchir les élèves.
Ah bon? Donc tu es en train de me dire qu'on va transformer des contraintes en atouts pédagogiques?
Oui, je m'explique. Historiquement, quand la discipline des arts plastiques a été mise en place au collège à la fin des années 70, les professeurs se sont retrouvés avec des classes de 30 élèves qui défilaient toutes les heures. Forcément, les contraintes matérielles étaient fortes. Et ils se sont dit une chose très simple. Au lieu de subir le manque de place, le manque de matériel et le nombre d'élèves, je vais me servir de ces contraintes pour faire travailler autrement mes élèves.
Comment ça?
Premièrement, tu ne dois pas perdre de temps à trop parler à tes élèves. T'as pas le temps de toute façon, tu dois changer d'activité dans une heure. Donc, tu vas leur dire quelque chose de simple, compréhensible et rapide, qui les mettra tout de suite en pratique.
Je te rappelle que j'ai pas de place dans ma salle.
Alors, tu organises ta salle et ta demande pour que ça soit opérant pour tes élèves.
Ok. Mais pour les élèves, faire de l'art plastique, c'est faire de la peinture. Et dans ma salle, je n'ai pas d'eau.
Eh ben, tu vas pas faire de peinture. Tu vas travailler avec d'autres outils et autrement. Et on fera de la peinture à un autre moment et autrement.
Donne-moi un exemple, s'il te plaît.
Bon, tu peux pas faire de peinture pour travailler la couleur. C'est une véritable contrainte. Eh bien, tu peux faire travailler la couleur à tes élèves en leur faisant faire des tris de matériaux, des tris d'objets, des classements, et tu pourras aborder exactement les mêmes notions de couleur. La contrainte « je peux pas faire de peinture parce que j'ai pas de pointeau » devient un moyen pour les élèves de travailler autrement et de réfléchir sur leur environnement direct.
Ok, mais il faut bien quand même qu'ils peignent une fois dans l'année, mes élèves.
Oui, tu as raison. Eh bien, tu vas utiliser, comme je te le disais tout à l'heure, une fois avec un groupe sur un îlot ou un petit groupe dans la classe où ils ne seront que 5 ou 4 ou un peu plus et tu seras peut-être en tutelle ou pas, tout dépend de tes élèves.
Alors tu viens de nous parler de l'organisation dans la classe. Maintenant, est-ce qu'on peut aborder le point de vue matériel, c'est-à-dire de quoi j'ai besoin, le minimum vital pour commencer?
De papiers de nature différente, de récupération ou pas, des différents formats. Des outils graphiques aussi. Des crayons, des pastels, des fusains...
Ouh là là, tu parles pastel, fusain, il faut que tu nous expliques la différence.
Alors, en pastel, il y a deux types, les secs et les gras. Et il y a aussi le fusain. Le fusain, en fait, c'est du charbon. Donc ça veut dire qu'il y a des inconvénients comme pour les pastels secs. C'est très friable et il va y en avoir partout. Donc il faut que tu sois prêt à ce que tes élèves puissent se laver les mains et que tu aies de quoi laver les tables. Mais attention, surtout, n'achète pas de produits spécialisés. Quand tu vas devoir fixer tes pastels ou tes fusains, utilise de la laque bon marché. On n'achète pas de matériel onéreux de Beaux-Arts, car il ne sert à rien pour une utilisation en classe.
Et tu me parles pas de feutre?
Oui, mais bon, il y en a toujours, et c'est difficile de les faire sortir d'une utilisation type coloriage. Mais bon, rien ne te l'interdit. Et pense aussi aux matériaux de récupération.
Ouais, mais alors sur ce point-là, il va falloir quand même que je me restreigne un petit peu.
Oui, c'est vrai. Le plus simple, c'est de penser facilité de manipulation pour les élèves et de stockage pour toi. Donc tu vas éviter les plastiques trop épais, qui coupent et tout le reste.
Ok, là je vois bien pour ma classe à moi. Mais si je veux la jouer un peu collectif, à quoi je pense pour des achats groupés pour toute l'école?
Alors, pour toute l'école, il faut acheter des grandes quantités. Donc déjà, des ramettes de papier, et notamment de format raisin. Tu sais, ces très grandes feuilles là qui font 50-65 cm. Ou alors du papier en rouleau. Ensuite, la peinture en grande contenance. Et puis des outils comme des rouleaux qu'on n'utilise pas tout le temps en fait. Pense aussi aux pinceaux de bricolage, ils sont moins chers et avec des tailles différentes.
D'ailleurs, tu peux nous faire un petit focus sur les pinceaux. Il en existe tellement de sortes.
C'est-à-dire...
Bah, les tailles, les gros, les plats, les petits, les fins.
Ah oui, d'accord. Alors, les plus fréquents sont les brosses plates et les pinceaux dits classiques en pointe. Après, tu varies leur grosseur. Plus le numéro augmente, plus le pinceau est gros ou large pour les brosses.
Ok, on a parlé organisation, on a parlé matériel. Et si on parlait un peu de pédagogie maintenant? On fait quoi?
Ben, je sais pas, tu as envie de travailler quoi et avec qui, avec quels élèves?
Alors, tout d'abord, moi, je ne veux pas que mes élèves fassent une production par séance. C'est trop lourd à gérer. Au contraire, je voudrais qu'ils aient vraiment un travail progressif.
Ça tombe bien, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce qui est attendu dans les programmes.
Ok, ça veut dire que en art plastique, c'est comme en maths. On découvre, on s'entraîne et après on produit.
Eh oui, notre grande compétence en art plastique, c'est expérimenter, produire, créer. Donc tes élèves, il faut leur faire découvrir quelque chose, un outil, une technique, une matière. Puis ils expérimentent. Et ensuite, ils créent une réalisation reprenant les découvertes qu'ils auront mises en commun. Et il leur faut du temps. Ça veut dire que pour leur production, il faudra plusieurs séances.
Mais alors, je suis pas obligé de garder à chaque fois toutes les traces qu'on fait durant les séances.
Ah non, pas du tout une obligation. On fait peut-être plutôt ça en cycle 1, où tu pourras multiplier les expérimentations et en garder certaines. Ils sont encore tout petits. On ne fait pas toujours quelque chose de fini et qui soit joli à accrocher.
Ok, je comprends. Maintenant, est-ce que tu peux nous donner un exemple, s'il te plaît?
Ok, tu veux travailler quoi?
La matière?
Quel cycle?
Cycle 2, et j'aimerais bien partir sur du volume.
Réfléchissons. On va dire que tu peux récolter des tubes de carton fin, ça te va?
Oui, ça c'est facile d'un point de vue matériel. Mais ça veut dire que tu me proposes un truc en rouleau de papier toilette?
Oui et non. Le matériau sera celui-là, mais tes élèves vont le transformer en quelque chose d'artistique, car ils vont le détourner, le manipuler. Ce ne sera plus que du simple carton, mais bien plus. Alors que pouvons-nous imaginer?
Alors surtout, je voudrais pas qu'ils fassent tous le même bonhomme en rouleau de papier.
Dans les programmes de cycle 2, on parle de narration, on parle aussi d'émotion. Et si on imaginait un rouleau en colère ou un rouleau triste?
Tu crois qu'on peut passer avec les cycles 2 sur une mise en scène?
Pourquoi pas? Mais imaginons. 1. Découvrir. On découvre le matériau, on le décrit. Ses qualités physiques et plastiques, il est fin, marron, mou, il s'épluche. 2. Expérimentation. On trouve des moyens d'agir sur lui pour le transformer, mais sans ajout de couleur ni d'autres matières. Hein. On l'écrase, on le déchire, on le découpe, on le perce. Et je suis sûre qu'ils trouveront d'autres manipulations, tes élèves. 3. On crée. Par exemple, la consigne pourrait être uniquement en transformant la matière de ton rouleau, il devient joyeux ou triste, etc. au choix. Attention aux contraintes. Un rouleau par élève, ciseaux, moyen de fixation, pas de chute.
Ok, et tu penses qu'il faut combien de temps pour faire tout ça?
Il faudra bien 3 séances pour arriver à finir le travail. Et ensuite, si tu veux, tu peux leur demander de raconter une histoire avec leur rouleau. Et tu commences alors une nouvelle séquence sur la narration. Tu vois, tu as déjà un début de progression.
Et les références artistiques dans tout ça?
Tu me connais, Thomas. Tu sais qu'il ne faut pas faire à la manière d'eux. Tu devras ici choisir tes œuvres par rapport aux expérimentations des élèves, c'est-à-dire des productions où l'artiste a trituré, transformé son matériau.
Et tu penses à quelqu'un en particulier?
Par exemple, Eva Jospin. Elle construit des choses incroyables en découpant et en grattant du carton ondulé. Tu sais, le même que celui qu'il y a dans ta classe. Mais tu peux aussi leur montrer des empreintes ou des tracés digitaux dans les grottes préhistoriques.
Alors, si je comprends bien, je profite de mes séances pour construire mon lexique plastique.
Exactement. Et tu verras que beaucoup de ce vocabulaire viendra de tes élèves. J'ai déchiré, il est tout petit parce qu'il est timide. Quand il parle de cela, il parle des qualités physiques plastiques et de la mise en espace. Ce sera à toi d'institutionnaliser en donnant des termes précis à partir de leurs remarques. Je sais, c'est pas facile, mais tu vas y arriver.
Bon, là j'ai déjà un bon point de départ pour me lancer. Merci en tout cas. Mais la prochaine fois, j'aimerais bien qu'on aborde ensemble la question du beau avec les élèves.
Si tu veux, mais il faudra qu'on réfléchisse ensemble.